Et nous accueillons Andrei Gratchev, politologue, spécialiste des relations internationales, ancien porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev. Vous venez de publier un nouvel avant-guerre, point d'interrogation, paru chez Alma Éditeur. Votre réaction à ce que vient de dire Frédéric Say sur la disparition du mot gauche, qu'en pense un russe?
Écoutez, je me trouve un peu dans la posture qui devient plus ou moins habituelle pour un russe, puisque vous voyez le change de termes en Russie. Enfin, très souvent, et peut-être de plus en plus, a le sens inverse par rapport à leur utilisation ailleurs. Par exemple, on vient de célébrer le centenaire de la révolution bolchevique en Russie de 1917. Et on découvre cette Russie actuelle, la Russie de Poutine, très embarrassée par la nécessité de trouver un moyen, une façon, un slogan pour la commémorer, parce que le régime actuel, en quelque sorte, il se présente comme le leader volontaire d'une autre révolution contraire, la révolution conservatrice, en quelque sorte, et cherchant à rallier autour de Poutine, et enfin de cette image de poutinisme, les régimes plutôt qui regardent vers le passé que vers l'avenir.
Alors justement, puisque ce régime regarderait vers le passé plutôt que vers l'avenir, j'avais prévu de vous faire entendre la voix d'Alexandre Solzhenitsyn, tout simplement parce que le 13 février 1974, autrement dit il y a 44 ans, Solzhenitsyn était déchu de sa nationalité soviétique. Écoutez-le parler de la politique.
Nous ne devons pas nous limiter au plan politique. Le plan politique est un plan misérable, pauvre. Il y a de la droite, de la gauche, mais elle n'a pas de profondeur, ni d'élévation et de hauteur. Jamais aucun parti, aucune, n'a donné de grandes décisions, de grandes solutions humaines. La crise du monde actuel est beaucoup plus complexe. Et aujourd'hui, avec vous, en tant qu'écrivain, je dois dire honnêtement, j'ajoutais des questions plus profondes dans leur sens, signification. Mais notre vie a été tordue et on en a fait de la politique. Voilà d'où vient la politique.
Ce sont des paroles en partie prophétiques, Andrei Gratchev. On voit aussi que le sens même de la politique, de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, avec la présence russe notamment, avec également la nouvelle stratégie de Vladimir Poutine, interroge sur le rôle de la Russie, la manière dont elle se rattache à son passé. Et je voulais avoir votre réaction sur ce que signifiait donc aujourd'hui le mot de politique internationale, notamment pour Vladimir Poutine.
Écoutez, la politique, ou plutôt les politiques de Vladimir Poutine, puisqu'il y en a eu plusieurs pendant la période qu'il reste au pouvoir, c'est déjà 18 ans. Avec le prochain mandat, il risque de dépasser un certain Léonid Brejnev au pouvoir au Kremlin. Et donc, il y a eu plusieurs couches, plusieurs, en quelque sorte, poupées russes à l'intérieur de cette notion de la politique extérieure de Vladimir Poutine, qui a commencé, rappelons-le, comme une sorte d'héritier de Pierre le Grand, cherchant à rallier sa Russie à l'Europe et à l'Occident, et qui se transforme de plus en plus en un héritier d'Ivan le Terrible, ou son nouveau, nouvel avatar. Pareil pour la politique extérieure. Vladimir Poutine se présente de plus en plus comme un héritier de la politique extérieure de l'ex-Union soviétique, accompagnant ce qu'il croit être le retour de la Russie post-soviétique sur la scène internationale, d'où il a été chassé par ce double phénomène, sa crise intérieure, sa sortie du communisme, qui présidait sur le destin de la Russie pendant plus de 70 ans, mais aussi la déception, la découverte de l'impuissance, de l'incohérence de la politique occidentale, de la faillite de son ambition de vouloir gérer le monde après la fin de la guerre froide, d'une façon unilatérale, avec des coups de faits accomplis. Et donc, Poutine, président cette Russie qui, pour lui, est de retour, qui doit rétablir son rôle sur la scène internationale, eh bien, il se sert de la Syrie comme exemple, comme moyen.
C'est-à-dire...
Assad, pour lui, ce n'est pas un objectif. Souvenez-vous, il ne s'est pas lancé à l'opération de sauvetage d'Assad depuis 2011, c'est-à-dire depuis le début de la guerre civile en Syrie. Elle a bloqué, certes, avec les Chinois, le mandat de l'ONU pour l'opération occidentale, qui après tout consistait à essayer de répéter en Syrie le scénario libyen. Poutine en a bien tiré des leçons. Il a attendu 2015 pour profiter de l'occasion que lui a offerte l'incohérence occidentale, l'inconsistance, mais surtout la complexité terrible de la situation en Syrie, dans le terrain sur lequel on retrouve actuellement plusieurs guerres à la fois.
Caroline Galacteros, votre point de vue.
Je n'ai plus rien à dire. Je trouve que Andrei Gratchev dit très exactement et de manière limpide ce qu'il faut penser de tout ça. Mais de plus loin, évidemment, et avec une expertise moins grande, je vois l'aventure de Vladimir Poutine en politique tout court, d'ailleurs, et en politique internationale certainement, comme une tentative de syncrétisme historique par rapport à la Russie, c'est-à-dire la volonté d'incarner une continuité historique à travers toutes les péripéties de l'histoire russe, effectivement depuis Pierre le Grand et même Ivan le Terrible et jusqu'à aujourd'hui, en passant par le soviétisme, en passant par tout. Bon, ça c'est pour l'aspect historique. Sur la Syrie, je suis tout à fait d'accord avec vous. La Russie a été extrêmement intelligente, a attendu, a failli se faire réembarquer dans une aventure à la libyenne et l'a assez mal pris et s'est dit attendons, si nous avons une occasion de pouvoir rentrer dans le jeu et revenir sur la scène internationale d'une manière active et comment dirais-je efficace pour finalement répondre à des principes qui sont toujours ceux de la Russie, c'est-à-dire le respect de la légalité internationale, le respect des principes onusiens, le respect de l'intangibilité des frontières, le respect, les vieux trucs de la base de la charte de l'ONU, quoi.
Justement, Andrei Gratchev, sur la longue durée, on peut parler de Pierre le Grand. Sur une période beaucoup plus courte, on pourrait parler de guerre froide. Et on a eu, sur une période encore plus courte, une sorte de rapprochement entre les États-Unis et la Russie. C'est fini?
Bon, c'est jamais fini dans la politique. C'est vrai que nous nous trouvons, dans une étape malheureuse de ces relations en dents de scie, en quelque sorte. Parce que vous voyez, les dirigeants successifs, qu'il s'agisse des soviétiques ou des américains, bien, ils devaient avoir passé par une expérience parfois malheureusement dangereuse et malheureuse, comme Kennedy et Khrushchev à l'époque de la crise des missiles de Cuba en 62, pour aboutir finalement au constat banal de ce que le conflit entre les deux superpuissances non seulement est à éviter, mais tout simplement il serait suicidaire. Et successivement, Kennedy, Khrushchev en 62, Brejnev-Nixon en 72, en signant une sorte de traité de non-agression nucléaire. Mais Gorbatchev-Reagan, tout récemment, en 85, à Genève, ont déclaré conjointement que la guerre entre les deux puissances est inimaginable, elle ne peut pas être gagnée, et qu'aucune des deux parties ne doit chercher la supériorité sur l'autre.
Mais alors, est-ce que dans ce cas-là, on n'assiste pas à une guerre par pays interposés en Syrie aujourd'hui?
Bien sûr, parce que, et c'est ça le drame de la Syrie, qui redevient le terrain de la confrontation de plusieurs puissances. C'est pour ça que je dis, il y a plusieurs guerres à l'intérieur, enfin, de ce qu'apparaît, enfin, la guerre civile syrienne. Il y a la guerre entre les Turcs et les Kurdes, entre l'Iran et l'Israël, et derrière tout cela, il y a la confrontation qui se dessine entre, à nouveau, le retour de ce spectre, de la confrontation stupide et absurde de la Russie avec les Américains.
Caroline Galacteros, comment se traduit cet affrontement, si vous concevez qu'il y a aujourd'hui un affrontement entre la Russie et les États-Unis en Syrie ?
Mais c'est-à-dire, là encore, je suis tout à fait d'accord. Il y a, tant qu'on est sur une position où on reconnaît qu'il serait suicidaire de s'affronter, on peut le faire de manière indirecte, on peut le faire, mais on peut le faire dans certaines proportions. Il y a malheureusement une tentative, il y a une exaspération, si vous voulez, de l'impuissance américaine, qui est une impuissance qui maintenant commence à dater. Ça a commencé en 2003, vraiment. C'est-à-dire où on a commencé à voir les limites de la tentative de reprendre la main sur le Moyen-Orient durablement. Donc, ils n'y sont pas arrivés. Il y a une exaspération et il y a la tentation de rechercher d'autres voies pour l'invulnérabilité. Ça se voit dans beaucoup de domaines. Ça se voit aujourd'hui avec la miniaturisation du nucléaire, par exemple. Enfin, il y a des débats qui reviennent. Donc on est effectivement en train de... C'est ça qui rend la situation grave, c'est qu'on n'est plus sur une notion d'équilibre intelligent et de containment des véritables
containment de
pardon oui
containment pourrait dire
non, non, endiguement
oui.
Endiguement de la rivalité de fond avec juste des conflits. Là, c'est des conflits par proxy, certes. Certes.
Par proxy.
Procuration. Par procuration.
André Gratchev.
Parfait. Et moi, je fais des anglicismes épouvantables. Mais enfin, voilà, tout est une question de degré.
Justement, question de degré, lorsqu'il s'agit donc de cette nouvelle guerre froide, si là aussi vous reprenez ce terme, Andrei Gratchev, vous dites que on se rend compte que l'affrontement serait inimaginable. On a quand même une escalade, on a une relance du programme nucléaire américain qui peut rappeler l'offensive menée par Ronald Reagan sur la guerre des étoiles, qui était là pour tenter d'épuiser l'Union soviétique de l'époque. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui survenir si cette relance de l'arsenal nucléaire est effective? Comment pourrait réagir la Russie?
Écoutez, là, dans la publication de cette nouvelle variante de la doctrine nucléaire américaine, je découvre la confirmation, enfin, de la vieille vérité. La guerre, et surtout la guerre nucléaire, est une affaire trop sérieuse pour être confiée aux militaires. Puisque là, j'y vois tout simplement un exercice, enfin, des esprits, assez particuliers, du complexe militaro-industriel, qui redécouvre une nouvelle fois, enfin, je dirais, la fiction d'une guerre nucléaire faisable, limitée. D'une guerre qui pourrait se servir des armes nucléaires, pas comme des moyens de l'endiguement, de la dissuasion, mais comme moyen de gagner sur l'adversaire. Ce qui est une erreur, surtout connaissant eh bien, l'état de la prolifération des armes nucléaires à travers le monde, avec l'exemple de la Corée aujourd'hui, et du Nord, l'Iran peut-être demain. Et donc, de ce point de vue, on est face à une nouvelle édition de la guerre froide que je qualifie d'être curieusement plus dangereuse que la précédente.
Pourquoi ?
Puisqu'elle n'est pas basée comme la précédente sur l'équilibre de la peur, sur la parité, sur l'existence des lignes rouges connues par les adversaires. C'est une asymétrie terrible qui rend fou, peut-être enivrant, les stratèges de la superpuissance, ou peut-être de la super-impuissance américaine, puisqu'actuellement, eh bien, on connaît la boutade de Kissinger qui disait l'Europe, l'Europe, donnez-moi le numéro de téléphone. Mais donnez-moi le numéro de téléphone à Washington. Chez qui faut-il appeler? Chez Trump, chez sa fille, chez les militaires ou peut-être le Congrès. Et chacun essaye de faire sa politique extérieure, mais aussi avec des moyens parfois extrêmement dangereux. Donc c'est ce déséquilibre qui, à mon avis, rend les situations, déjà par le fait d'être imprévisible, déstabilisante. Et là, on est en la confrontation de l'arrogance, de la force des Américains, de la faiblesse de la Russie, et on découvre que c'est ce déséquilibre qui rend la situation extrêmement dangereuse.
Caroline Galacteros.
Oui, c'est la nouvelle quête d'une asymétrie par l'Amérique et d'une préséance, c'est-à-dire là on voit bien que le monde n'est pas du tout unipolaire comme il l'avait souhaité, multipolaire on ne sait pas, une nouvelle bipolarité avec la Chine on n'en sait rien encore, c'est peut-être ce qui est en train de se structurer.
Pourquoi serait-ce en train de se structurer alors qu'on voit que là aussi la Chine peut constituer une menace à la fois pour la Russie et pour les États-Unis.
Oui, alors pas de la même. Ce sera un autre débat là. Il nous faudra du temps pour ça. Non, mais il y a un nouveau peer competitor qui apparaît pour l'Amérique a priori, qui se veut la Chine. La Russie évidemment cherche sa place là-dedans et vu les mauvaises façons que lui fait l'Europe, évidemment elle a des tentations vers la Chine, mais c'est un peu ce que j'appelle moi le baiser de la mort, enfin à voir et à discuter. Mais ce qui est vrai pour reparler de la question nucléaire, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Faire repasser l'idée d'une arme nucléaire d'emploi, miniaturisé au niveau tactique, ça change tout, c'est dramatique. C'est dramatique éthiquement, c'est dramatique moralement, c'est dramatique sur le terrain, et c'est surtout un nouvel avatar de l'impuissance de la puissance, parce que c'est l'illusion technologique, si vous voulez. On repasse encore à quelque chose et on cherche à détruire un équilibre dit de la terreur, ou en tout cas l'équilibre qui est le socle de la dissuasion, qui est que chacun se dit qu'il n'a pas intérêt à aller vers cela. Et dans un contexte de prolifération, c'est même assez fou. C'est-à-dire au moment où on reproche à l'Iran, où on fait des procès d'intention nucléaire à l'Iran, où on s'inquiète urbi et orbi de la prolifération, aller parler de relancer la miniaturisation du nucléaire, c'est quand même très très inquiétant. Et c'est effectivement, le système militaro-industriel est à la manœuvre. Mais il faudrait peut-être qu'au plan politique, il y a quelques limites, quelques bornes qui soient mises à ce genre d'utopie.
André Grachev.
Oui, écoutez, on connaît, c'est dangereux de jouer avec des allumettes, surtout des nucléaires. Et donc, même si, le programme actuel annoncé par les Américains, après tout, il ne reflète que les appétits du complexe militaro-industriel. Là, à partir du moment où ça se transforme en une sorte de tentative d'élaborer des scénarios d'une guerre ou d'un conflit, ça devient extrêmement dangereux parce que, vous voyez, nous sommes dans ce monde post-guerre froide, dans une situation, dans un contexte international à plusieurs étages. Il y a eu, à l'époque de la guerre froide classique, les deux supergrands, les deux superpuissances qui avaient la possibilité de contrôler le monde. Même Reagan avec Gorbatchev, à Reykjavik, ils ont cru, et peut-être ils étaient capables, de contrôler, d'arrêter la dissémination des armes nucléaires à l'époque, en 86. C'est plus le cas maintenant, le gin est sorti de la bouteille. Et on est face à la situation où plusieurs pays, en des autres échelons, commencent à penser de l'arme nucléaire comme moyen de la politique et parfois de sauvetage de leur régime, comme dans le cas de la Corée du Nord.
Mais justement, parce qu'Andriy Grachev, dans le livre que vous faites paraître Un nouvel avant-guerre, vous remontez à la Seconde Guerre mondiale, vous remontez à la stratégie que Staline a menée Il y a des évocations de Stalingrad, des interrogations de Churchill sur l'incapacité qu'on avait de saisir la stratégie de Staline. Est-ce que nous sommes encore dans ce monde-là ou est-ce que les derniers développements montrent qu'on a parfaitement changé d'époque ?
On ne change, on ne guérit jamais
de son époque.
Voilà, le drame, à mon avis, qui rajoute à l'insécurité de l'époque actuelle, à mon avis, c'est le fait de ce que on vit sous la direction d'une certaine nouvelle génération des politiques. La caractéristique particulière de cette génération, c'est qu'il s'agit de ceux qui n'ont pas connu la guerre. Ce n'était pas le cas de Bush, de Brejnev, même de Gorbatchev et de Reagan.
C'est pas le cas de Poutine, il n'a pas connu la guerre.
Mais non, il n'a pas connu ni lui, ni ses partenaires occidentaux. Donc il s'agit de cette nouvelle génération des politiques qui n'ont pas cette horreur de la guerre dans leur sous-conscience, dans l'os en quelque sorte. Pour certains d'eux, la guerre se transforme en une sorte de jeu vidéo. C'est une construction tout à fait mentale.
Mais vous pensez vraiment que c'est le cas de Poutine, puisque dans le témoignage autobiographique que l'on a, ce livre qui a été publié il y a 3 ans en France, Poutine parlait énormément, par exemple, de Stalingrad.
Vous avez raison. Pour les Russes, en général, il est plus difficile de sortir de ce mémoire de la guerre. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi, après tout, la grande fête nationale pour la Russie actuelle reste la fête de la victoire, avec quand même la contribution terrible que les Soviétiques, pas que les Russes, ont apporté à la victoire avec les 27 millions de morts. Mais même avec cela, le problème de la génération politique actuelle, c'est que même en parlant des affaires internationales, ils ont leur tête très souvent tournée vers leurs opinions publiques. Ils ne sont pas en dialogue entre eux. Même en pleine guerre froide, le dialogue, la ligne de communication, la ligne rouge depuis 62 entre Kennedy et Khrushchev était maintenue. C'est plus le cas maintenant. Il y a un an que Trump est aux commandes à Washington, il n'y a pas eu de sommet de la vraie rencontre entre les Russes et les Américains. C'est déplorable, c'est dangereux.
Merci beaucoup à tous les deux. Andrei Gratchev, je rappelle le titre de votre ouvrage « Un nouvel avant-guerre » paru chez Alma Éditeur. Merci beaucoup. Caroline Galacteros, on peut retrouver votre blog « Bouger les lignes ». Et je rappelle également que vous êtes présidente du think tank Géopragma.